Info matin, Nicolas Legrand.
€9 milliards manqueront à l'appel. Le Premier ministre et le ministre des Outre-mer préviennent que le report du vote de la réforme de la TGC entraîne une baisse de l'aide de la France à la Nouvelle-Calédonie. Le complément ne sera versé qu'en cas d'adoption du texte. À l'étranger, 179 morts, c'est le terrible bilan après qu'un avion s'est écrasé en Corée du Sud. L'appareil aurait percuté des oiseaux avant d'atterrir. Dans un autre crash aérien, Bakou accuse Moscou. Ilham Aliyev exige des aveux de la part de Vladimir Poutine concernant le crash d'un avion de ligne d'Azerbaïdjanais. C'était mercredi au Kazakhstan, un événement qui entraîne des tensions diplomatiques importantes entre les deux pays alliés. En métropole, Gérald Darmanin veut mettre sous haute surveillance les trafiquants de drogue emprisonnés. Le nouveau ministre de la Justice veut à tout prix éviter qu'ils continuent de gérer leur réseau en étant derrière les barreaux. Le sport et 12 matchs programmés aujourd'hui sur les cours du Wentoro. On joue le début des phases finales du BNC Tennis Open. La météo en Nouvelle-Calédonie, les nuages formés sur la chaîne débordent sur la côte est, la pointe nord et jusqu'au Loyauté. Ils donnent quelques averses, notamment sur le nord-est principalement. Ailleurs, le temps reste très ensoleillé, les températures sont stationnaires ou en légère baisse. Elles restent proches des valeurs de saison avec 27 à 31 degrés.
Bienvenue dans Info Matin pour tout savoir de l'actualité en Calédonie, en métropole et dans le monde. Bonjour Nicolas.
Bonjour Thierry, bonjour à tous.
Et à la une, l'actualité calédonienne.
Oui, François Bayrou et Manuel Valls écrivent aux élus. Le Premier ministre et le ministre des Outre-mer ont transmis hier un courrier à l'ensemble des responsables des institutions de Nouvelle-Calédonie ainsi qu'aux deux parlementaires calédoniens. Courrier qui a fait suite au communiqué publié samedi par les loyalistes et le rassemblement et qui annonçait avec 24 heures d'avance que l'État n'allait pas verser la totalité des 27 milliards d'aides promises à la Nouvelle-Calédonie.
Le Premier ministre et le ministre des Outre-mer qui débutent ce courrier avec un constat et je cite « À la suite de la séance du Congrès du 26 décembre dernier, la troisième conditionnalité permettant le versement de l'aide de l'État d'un montant de 231 millions d'euros, 27,5 milliards de francs, prévu dans le protocole d'accord entre la Nouvelle-Calédonie et l'État, n'a pas été adoptée. Une application stricte de ce protocole aurait dû conduire à remettre en cause le versement de cette aide. Néanmoins, et pour regrettable que soit cette absence de vote, nous avons décidé, considérant que deux des trois conditionnalités requises avaient été adoptées et que la plupart des forces politiques au Congrès étaient engagées dans une démarche de soutien aux réformes proposées, que l'aide de l'État serait débloquée à la hauteur des deux tiers de l'enveloppe initialement prévue, écrivent François Bayrou et Manuel Valls. Précisons que les deux tiers d'un montant initial représentent la somme de 154 millions d'euros, soit un peu plus de 18 milliards de francs. Dans leur courrier, le Premier ministre et le ministre des Outre-mer indiquent de manière très claire que sur cette somme, 125 millions d'euros, soit 14,9 milliards de francs, seront destinés aux provinces et aux communes. Le solde, soit 3,4 milliards de francs, relèvera dans sa répartition précise d'une appréciation du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, explique le Premier ministre et le ministre des Outre-mer. François Bayrou et Manuel Valls, qui indiquent par ailleurs et très clairement que, et je cite, « le dernier tiers de l'enveloppe initiale sera débloqué en 2025 dès lors que la conditionnalité inscrite au protocole initial et portant sur la réforme de la TGC aura été adoptée par le Congrès. Sans cela, il ne pourra l'être », insiste le Premier ministre et le ministre des Outre-mer, François Bayrou et Manuel Valls.
Alors, je le disais, samedi, les loyalistes et le Rassemblement avaient publié un communiqué dans lequel les élus lançaient un appel à la responsabilité. Il est impératif de constituer dans les plus brefs délais un gouvernement d'intérêt général capable de conduire les réformes nécessaires pour assurer le financement et la viabilité de la Nouvelle-Calédonie, écrivaient alors les élus, loyalistes et rassemblements. La constitution du nouveau gouvernement, il en sera d'ailleurs question aujourd'hui lors d'une nouvelle séance au Congrès, Michael.
En effet, les conseillers sont convoqués à 13h30 dans l'hémicycle du boulevard Vauban pour la première phase du processus de renouvellement du gouvernement. Les élus débattront d'une proposition de délibération fixant le nombre de membres du prochain exécutif, un nombre qui devrait être fixé à 11. C'est en tout cas cette proposition qui sera faite aux conseillers. Dès la proposition adoptée, les groupes politiques du Congrès auront jusqu'au 1er janvier 23h59 pour déposer les listes de candidats pour l'élection des membres du gouvernement. Une élection qui aura lieu le mardi 7 janvier à 9h lors d'une séance solennelle dans l'hémicycle du boulevard Vauban.
Et puisqu'on parle de cette actualité institutionnelle, c'est Louis Mapou, le président démissionnaire du gouvernement, qui sera notre invité du matin tout à l'heure à 7h30. Nous reviendrons avec lui sur la séquence politique et institutionnelle chargée que nous vivons depuis le 24 décembre dernier et la chute du 17e gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. Alors, en plus de cette délibération fixant le nombre de membres du prochain gouvernement dont nous venons de parler, les élus examineront aujourd'hui et demain, si nécessaire, un projet de loi du pays portant diverses mesures en matière de régulation des marchés et 4 projets de délibération dans des domaines divers. Voyons maintenant, Mickaël, quels seront les autres rendez-vous de la semaine qui débute.
Une semaine très particulière, puisqu'elle débutera en 2024 pour se terminer en 2025. C'est en effet dans la nuit de mardi à mercredi que nous fêterons le passage à la nouvelle année, lors du réveillon de la Saint-Sylvestre. Un réveillon particulier pour les habitants des communes du Grand Nouméa. En effet, rappelons que le Haut-Commissariat a décidé de l'application d'un couvre-feu de 1h à 6h du matin pour la nuit de la Saint-Sylvestre et pour la nuit du 1er au 2 janvier. Une mesure qui ne concerne donc que les communes de Nouméa, du Mont-d'Or, de Dimbéa et de Païta. A noter également que vous avez jusqu'à demain, mardi 31 décembre, pour vous inscrire sur les listes électorales de votre commune de résidence. Notez enfin que mercredi, le 1er janvier 2025, vous payerez plus cher votre plein de carburant. Le litre de sans-plomb vous coûtera 30 centimes de plus et sera affiché à 160,30 francs dans les stations. Le litre de gazole va augmenter de 3 francs et vous coûtera à partir de mercredi 141,40 francs.
Radio Rythme Bleu, opinion.
Et c'est l'heure d'opinion, votre rendez-vous SMS sur Radio Rythme Bleu. Voici notre question du jour. Selon vous, était-il nécessaire d'instaurer un couvre-feu dans les 4 communes de l'agglomération pour le réveillon du nouvel an ? Si vous pensez que c'était nécessaire, vous tapez 1. Si vous pensez que ce n'était pas nécessaire, vous tapez 2. Et vous envoyez votre réponse par SMS au 3146. Merci pour votre participation et rendez-vous demain pour la réponse à notre question du jour. À retenir dans l'actualité également cette intervention du COSENSE hier en milieu de journée en baie de Maha à Païta. Un homme a fait une chute à l'intérieur de son bateau. À l'arrivée des secours, il était inconscient. Écoutez les détails de Martin Blanchard, le directeur adjoint du COSENSE.
La vedette de la SNSM Nautil a été engagée immédiatement pour se porter au secours de ce monsieur. Donc nous avions eu l'information via l'autre passagère qui a pu contacter les secours. Et donc la vedette de la SNSM est arrivée à 13h30, a pu prendre en charge la victime, l'a conditionnée. Elle est ensuite revenue sur Nouméa à Port-Moselle et la victime a pu être évacuée par ambulance vers le Medipôle.
Et puis une opération également pour venir en aide à une croisiériste à bord du Queen Elizabeth. C'était dans la nuit de samedi à dimanche. L'appareil Puma des forces armées en Nouvelle-Calédonie ainsi que le CASA de l'armée de l'air ont été mobilisés pour une évacuation médicale durant la nuit. La prise en charge de la passagère du paquebot a été réalisée à quelques 138 000 nautiques au large de Lifou, alors que le navire faisait route vers le Vanuatu. Ce passager a pu être transporté conscient jusqu'au Medipôle de Kuutio. Il est 6h passé de 38 minutes. Vous écoutez Radio Rythme Bleu. On va marquer une première pause dans ce journal avant de voir la suite de l'actualité et l'actualité à l'étranger avec ce crash d'avion en Corée du Sud qui a fait 179 morts.
Toute l'info en trois lettres, RRB.
Pour vos fêtes de fin d'année, votre magasin Hyper U Païta vous accueille avec des horaires exceptionnels.
Vendredi 27 et samedi 28 décembre de 8h à 21h. Dimanche 29 décembre toute la journée de 8h à 20h. Lundi 30 décembre de 8h à 21h. Et mardi 31 décembre de 8h à 18h. Et profitez de nos prix bas dans notre catalogue festif pour illuminer vos fêtes.
Toute l'équipe de votre magasin vous souhaite de joyeuses fêtes.
Hyper U, sortie Païta Centre. Suivez toutes nos actualités sur notre page Facebook Hyper U Païta NC.
Hyper U, la qualité de notre métier, le prix, notre priorité.
U, commerçant, autrement.
Mardi 31 décembre, c'est le réveillon du nouvel an. Pensez à réserver votre table dans votre restaurant Le Fun au 28 67 08. Retrouvez les suggestions spéciales Saint-Sylvestre sur la page Facebook Le Fun.
RRB, 6h-8h, Nicolas Legrand.
La suite du journal, je le disais, avec le crash d'un avion en Corée du Sud. Il s'agit tout simplement de la plus grosse catastrophe aérienne dans le pays. Il s'est écrasé en tentant d'atterrir à l'aéroport de Wuhan, au sud du pays. Le bilan est terrible, 179 morts sur les 181 passagers. Seuls 2 membres de l'équipage ont survécu et il reste tout de même encore des zones d'ombre, Maxime Gondelot.
Alors on sait que l'accident s'est produit à 9h du matin. Ce Boeing 737 reliait Bangkok à Wuhan, en Corée du Sud, mais au moment d'arriver sur la piste, le train d'atterrissage ne sort pas. L'avion se pose donc tant bien que mal sur le ventre avant d'heurter violemment un mur en bout de piste. Les flammes engloutissent rapidement l'appareil. Le bilan humain est lourd, vous l'avez dit, 179 personnes sont mortes, 2 rescapées. Les pompiers sur place n'ont pour l'instant identifié que 65 personnes. C'est la pire catastrophe aérienne dans l'histoire du pays. Le comté de Wuhan est déclaré comme zone sinistrée spéciale. Le PDG de la compagnie low cost Jeju Air a tenu à prendre la parole devant la famille des victimes.
Je tiens à exprimer mes plus sincères condoléances et mes plus sincères excuses aux passagers décédés à la suite de cet accident et à leurs familles. La compagnie fera tout son possible pour résoudre la situation rapidement et apporter son soutien aux familles des passagers.
Une enquête a bien été ouverte pour comprendre les raisons de ce crash.
Et l'enquête se porte sur une possible collision avec des oiseaux quelques minutes avant l'atterrissage. Mais pour Xavier Titelman, spécialiste des questions de sécurité aérienne, les causes sont multiples.
Les trains d'atterrissage n'ont pas pu sortir, mais en plus, les volets qui permettent de ralentir l'avion n'ont pas été déployés non plus. Il y a l'appareil qui a arrêté de partager sa position, ce qu'on appelle l'ADSB, avant l'atterrissage. Donc on se doute qu'avec des problèmes sur l'informatique de l'avion, on voit également le moteur droit. Peut-être qu'il a ingéré des oiseaux. Et donc il y aura certainement une accumulation de problèmes. Je pense que ce sera un crash très complexe en termes de technique.
Et la tour de contrôle aurait bien averti l'équipage d'une collision avec des oiseaux. Les autorités locales qui ont indiqué avoir retrouvé les boîtes noires qui serviront à comprendre ce qui s'est passé avec certitude. La Corée du Sud a maintenant un mois pour publier les premiers résultats de l'enquête. De son côté, l'Azerbaïdjan accuse la Russie et réclame même des aveux. Le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev a affirmé que l'avion d'Azerbaïdjan Airlines qui s'est écrasé mercredi au Kazakhstan avait subi des tirs en provenance du territoire russe. Il accuse le Kremlin d'avoir voulu dissimuler son implication. Le président azerbaïdjanais, qui ne veut pas se contenter des excuses formulées par son allié russe au cours d'un entretien entre les deux hommes, les boîtes noires de l'avion seront envoyées au Brésil pour analyse. L'actualité dans la région maintenant, en Polynésie française, l'équipage du Bougainville, un bâtiment de soutien et d'assistance outre-mer de l'armée française, a procédé à la saisie de 550 kilos de cocaïne, d'une valeur estimée à plus de 16 milliards de nos francs, ce qui en fait la plus grosse prise jamais réalisée depuis 2017. Le point avec notre correspondant à Sydney, Jean-Pierre Zajac.
Cette saisie a été effectuée à environ 1300 kilomètres dans le sud de Tahiti. Le Bougainville y a intercepté un navire de pêche battant pavillon espagnol dont l'inspection a abouti à la découverte de ballots contenant 550 kilos de cocaïne. Ces 14 membres d'équipage, des marins de nationalité équatorienne et colombienne, ont été arrêtés et placés en détention provisoire à Papeete, où le navire et sa cargaison ont également été escortés par l'équipage du Bougainville. Mené sous l'autorité du haut-commissaire de la République en Polynésie, l'interception de cette grosse quantité de cocaïne a été rendue possible grâce à la coopération entre l'Office anti-stupéfiants français, OFAST, et la police fédérale australienne. À Sydney, Jean-Pierre Zajac, RRB.
Il est 6h passé de 43 minutes. Vous écoutez Radio Rythme Bleu, la lutte contre le narcotrafic en métropole. Ce sera juste après la pub avec les nouvelles mesures annoncées par Gérald Darmanin, le ministre de la Justice.
RRB, 6h-8h, Nicolas Legrand. Le BNC Tennis Open arrive du 29 décembre au 4 janvier à la Ligue de Tennis au Wentoro. Venez assister à l'événement tennis de l'année avec plus de 50 joueurs internationaux surmotivés pour succéder à Arthur Cazot. Que vous soyez fan de tennis ou simplement à la recherche d'une expérience unique, ne manquez pas ce rendez-vous incontournable. En journée ou en soirée, vivez l'intensité du BNC Tennis Open dans une ambiance exceptionnelle. Qui remportera la 20e édition? Venez le découvrir à l'occasion du BNC Tennis Open du 29 décembre au 4 janvier au Wentoro. Infos et billets sur www.bnctennisopen.com.
Attention, important, la ville de Nouméa a dû procéder à un toilettage des listes électorales face à de nombreuses adresses de domicile incorrectes. Certains d'entre vous ont pu être radiés. Vous devez vérifier votre inscription sur le site www.electeur-nc.fr. Si tel était le cas, vous devez procéder à votre réinscription, soit à l'hôtel de ville, soit par internet sur le site www.nouméa.nc, soit par courriel à l'adresse suivante vie.citoyenne@ville-nouméa.nc.
Important, vous avez jusqu'au 31 décembre 2024 pour vous réinscrire. N'attendez pas le dernier moment. Pour celles et ceux qui ne sont pas inscrits, vous devez aussi le faire avant le 31 décembre 2024. Pour tout renseignement, appelez la mairie de Nouméa au 27 31 15.
Toute l'info en trois lettres, RRB.
La suite d'Info Matin, on retrouve Nicolas Legrand.
En métropole, tout d'abord, les forces de l'ordre se préparent à l'approche de la Saint-Sylvestre. Une période sous haute tension. L'année dernière, 90 000 policiers et gendarmes étaient déployés sur le terrain. Cette année, les autorités craignent de nouveaux débordements, puisqu'en cette fin d'année, les policiers notamment ont été la cible de tirs de mortiers d'artifice dans plusieurs villes de la région parisienne, mais aussi du côté de Strasbourg, Noé Chaillot.
Oui, des dizaines de jeunes cagoulés postent des vidéos avec fierté sur les réseaux sociaux, où on les voit tirer sur des policiers avec des mortiers d'artifice.
Il est en train de les tuer!
Des incivilités intolérables en accélération avant le nouvel an, confie Sylvain André, délégué Alliance Police Nationale.
On est dans une rage, pourquoi? Parce qu'on est sur des actes criminels. Il y a une certaine concurrence entre différentes cités. Hein. Celui qui va faire le plus, à créer le buzz.
Avancez!
On est sur le système du guet-apens, où on incendie une voiture, l'arrivée des sapeurs-pompiers sur place, et ces derniers sont victimes de tirs de mortier.
Pour protéger les pompiers en cas d'incendie de véhicule, un nouveau dispositif est mis en place.
Le travail commun police-pompiers. Des sapeurs-pompiers tournent dans les équipages de police, qui permet effectivement aux sapeurs-pompiers surtout d'être sécurisés, d'intervenir lorsqu'il y a la présence policière.
Le mot d'ordre pour la soirée du Nouvel An, éviter les émeutes et la casse.
Des dispositifs seront mis avec des hélicoptères, également l'utilisation des drones, avec effectivement un renfort de gendarmes mobiles et de CRS.
Et cette année, les forces de l'ordre devraient compter sur un dispositif inédit, avec un effectif de 100 000 policiers et gendarmes pour couvrir l'ensemble du territoire français le soir du Nouvel An.
Noé Chaillot, correspondant d'Europe 1 dans le Grand Est. Gérald Darmanin, je le disais, s'attaque au narcotrafic. Le ministre de la Justice souhaite instaurer un isolement renforcé pour les narcotrafiquants les plus dangereux en prison. Il se montre prêt à travailler avec le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, sur cette question. Mayalène Trémollet pour Europe 1.
Gérald Darmanin veut se montrer sur tous les fronts. Le nouveau garde des Sceaux, qui fait de la lutte contre le narcotrafic l'une de ses priorités, était aujourd'hui au tribunal judiciaire de Paris. L'occasion de s'expliquer sur les nouvelles mesures à mettre en œuvre pour empêcher tout trafic depuis les prisons.
Je pense que la France est capable, malgré les difficultés budgétaires, de pouvoir isoler les quelques dizaines, la centaine de chefs de réseau pour donner d'abord un signal extrêmement fort et pour montrer le volontarisme de l'État.
Dès son arrivée place Vendôme, Gérald Darmanin s'est engagé à donner les moyens d'une justice plus ferme, plus rapide, le tout en s'inscrivant sur la même ligne que Bruno Retailleau.
Nous connaissons, vous le savez, comme d'autres pays, une recrudescence de ce narco-banditisme. Il faut donc évidemment que nous soyons extrêmement coordonnés avec le ministère de l'Intérieur et que nous soyons extrêmement fermes.
Le duo représentant d'une droite forte au gouvernement déclare avoir les mêmes ambitions, pas seulement dans la lutte contre le narcotrafic, mais aussi dans l'exécution des courtes peines ou encore le contrôle de l'immigration irrégulière, des thématiques que les deux hommes devraient aborder le 3 janvier à l'occasion d'un déjeuner pour fixer un cap et une feuille de route commune.
Justice encore en bref, Dominique Pellicot prendra sa décision dans les prochaines heures. Celui qui a été condamné à la peine maximale pour les viols dits de Mazan est en pleine réflexion concernant l'appel de la décision, selon son avocate. Les 51 accusés ont jusqu'à demain matin pour faire connaître leur fameuse décision après leur condamnation pour les viols sous soumission chimique de Gisèle Pellicot. 15 ont déjà interjeté appel, dont le Calédonien qui est impliqué dans ce dossier. Le procès en appel devrait se tenir en fin d'année prochaine devant un jury populaire. Il est 6h49, vous écoutez Radio Rythme Bleu, une dernière pause dans ce journal avant de voir l'essentiel de l'actualité sportive en compagnie de Mickaël Juneski.
RRB, pour être au cœur de l'actualité. La Calédonienne des Eaux vous facilite la vie. Payez directement vos factures en ligne ou demandez le prélèvement automatique. C'est simple, c'est rapide et surtout écologique. Rendez-vous au plus vite sur le site www.cde.nc. Pour vous comme pour nous sur RRB, il n'y a pas de jour sans la Calédonienne des Eaux.
Pour gagner des bons d'achat de 100 000 francs, à dépenser où vous voulez, comme vous voulez, envoyez RRB au 4020. Tous les 1500 SMS, pile sur le compteur, 100 000 francs de bons d'achat sont gagnés. Il n'y a pas de liste préétablie, les gagnants décident comment se faire plaisir. Et si vous n'êtes pas pile sur le compteur, votre SMS est enregistré automatiquement pour le jeu du million. Oui, 1 million de bons d'achat sont à gagner par tirage au sort parmi tous les SMS reçus. Alors tentez votre chance en envoyant RRB au 4020. 371 francs par SMS, règlement disponible à l'accueil de la radio. N'oubliez pas, RRB au 4020. Bonne chance!
Pour vous, comme pour nous, il n'y a pas de jour sans l'OPT sur Radio Rythme Bleu. Rendez-vous sur notre site www.opt.nc pour découvrir l'ensemble de nos offres. L'OPT, le monde à portée de main.
RRB, première radio d'information.
La suite d'Info Matin avec le sport, on retrouve Nicolas Legrand.
Et à la une de l'actualité sportive du tennis, c'était la première journée hier du BNC Tennis Open au Wentoro. 6 matchs de qualification étaient trop programmés, Michael Juneski.
Oui, et pour cette fête du tennis à Nouméa, ça ne pouvait que bien commencer puisque deux Français s'affrontaient en match d'ouverture. Le Tahitien Antoine Voisin et le métropolitain Théo Arribagé. C'est le second spécialiste du double et inscrit à la dernière minute en simple qui s'est imposé en 2-7, 6-0, 6-3. Sa réaction.
Je n'étais pas préparé à jouer le simple, mais je suis quand même très content de pouvoir jouer ici en simple. J'avais demandé au directeur du tournoi de me donner une wildcard, donc je suis rentré sans wildcard, mais premier match en simple depuis quand même quelques temps. J'étais bien en route, après j'ai un peu baissé au début du second, mais on va dire que j'ai fait le travail. Ouais, la priorité ça reste le double, mais on va essayer de jouer complètement à fond ce second tour et essayer de gagner ce match bien évidemment, mais on va jouer à fond ce match-là, c'est sûr.
Et malheureusement, ce n'était pas le jour des Tahitiens. Sur l'autre court, Gillian Osmond s'est inclinée en 2-7, 6-2, 6-1 contre l'Australien Blake Beldon. Dans la deuxième rotation de ce dimanche, les spectateurs ont longtemps cru à l'exploit d'un jeune Calédonien, Jalan Salin-Ouimon. Il n'a que 16 ans, mais a déjà tout ou presque d'un grand. Il a fait plus que tenir tête à l'Australien Cade Byrrell. Il s'est finalement incliné en 3-7, 6-1, 7-5, 6-3. Enfin, les spectateurs qui ont patienté jusqu'au dernier match ont vu une démonstration d'un Calédonien d'adoption, Liam Branger. Il a écrasé l'Australien Adam Taylor en 54 minutes, 6-0, 6-2. Une belle victoire devant sa famille et ses amis.
Franchement, ça fait vraiment plaisir. Ça m'apporte beaucoup d'énergie. Il y a ma famille, en effet, et puis des amis. Donc franchement, c'est super sympa. Beau public aujourd'hui, il y a pas mal de monde. J'espère que demain, ils seront au rendez-vous aussi. Et puis voilà, j'espère faire le meilleur demain. Donc maintenant, match demain, je vais me préparer au mieux, récupérer, et puis aller. Hein. Jouer dans le tableau final, ce serait vraiment incroyable de pouvoir rentrer et de jouer contre des très bons joueurs. Donc franchement, je vais donner le maximum demain, et ouais, je vais tout donner.
Et ce lundi, à partir de 11h, 12 matchs au programme, les finales des qualifications, mais aussi le début du tableau principal en simple, avec l'entrée en lice notamment du Calédonien Eremen Akort, Denzo Kwako, finaliste l'an dernier, et de l'Australien Bernard Tomic. En double, Benoît Paire sera associé à Jalan Salin-Ouimon.
L'actualité dans le Pacifique maintenant, avec de la voile et la fin du périple en vue pour les Calédoniens de Pulpito sur la Sydney Hobart.
Pulpito MLSSCD toujours en course sur cette Sydney Hobart. Le navire approche de la ligne d'arrivée, actuellement une cinquantaine de kilomètres de la fin de l'épreuve. Il faut dire que sur plus de 100 voiliers au départ de Sydney, une trentaine a déjà abandonné. Nous en sommes à 3 jours et 17 heures de course. L'équipage mené par David Tréguier pointe à la 9e place du classement IRC3 et à la 3e place de la catégorie de navires Sydney 38.
Voile toujours avec la suite du Vendée Globe 2024.
Un duel jusqu'au bout pour les deux hommes de tête. Johan Richom sur Paprec Arkéa, Charlie Dalin à bord de Massif. Richom semblait avoir pris un léger avantage ces derniers jours, mais voilà que Dalin rattrape son retard au fil des heures, au milieu de l'Atlantique. Au large du Brésil, les deux skippers sont au coude à coude, au contact, séparés de seulement 70 petits kilomètres. On pourrait avoir le droit à un bras de fer jusqu'au terme de cette épreuve, à la conquête d'un potentiel record et surtout d'une victoire de prestige sur ce Tour du Monde en solitaire, sans escale et sans assistance. Nous en sommes à 49 jours et 7 heures de course.
Du football maintenant avec le Boxing Day sur les pelouses européennes.
La 19e journée du championnat d'Angleterre et cette victoire de Manchester City sur Leicester 2-0. De son côté, Tottenham n'a pu faire mieux qu'un nul face à Wolverhampton, 2-2. Liverpool s'est imposé enfin à West Ham, 5-0, un festival du leader de la Première Ligue. Et puis en Italie, Naples a remporté un succès précieux face à Venise, 1-0 pour grimper à la 2e place du Calcio. La Juventus et la Fiorentina ont fait match nul, 2-2. En ce moment même, le Milan AC affronte l'AS Rome.
En rugby, on dispute la fin de la 13e journée du top 14.
Mais parmi les résultats du jour, ce nul entre le Racing 92 et le Lyon Olympique Universitaire. Les deux équipes se sont quittées sur un score de parité 25-25. Un match qui marquait les retrouvailles pour Romain Taufi-Fenois sous les couleurs du Racing face à son ancien club lyonnais. Autre résultat, Perpignan qui l'a emporté face à La Rochelle 21-13. Un succès important pour l'USAP, toujours en bas de tableau à la 12e place. Le dernier choc du week-end opposera ce matin le Stade Toulousain au Stade Français. Le troisième ligne du Stade Français, Johan Tanga, veut que son équipe garde un esprit conquérant lors de ce déplacement.
Je pense que si on l'aborde avec l'état d'esprit qu'on va là-bas pour en prendre 60, on va en prendre 80, je pense. Je pense voilà, il faut qu'on se concentre plus sur nous, peu importe l'adversaire qui est en face. Même si on sait qu'aujourd'hui, ils sont plus forts que nous. On y va avec, avec nos armes, avec ce qu'on a préparé pour rivaliser au mieux, bien sûr, pour essayer de gagner.
Et Toulouse qui vise la première place du classement à condition de s'imposer avec le bonus contre des Parisiens qui sont 11e du championnat de France. Toulouse, Stade Français, match à suivre ce matin à partir de 7h05, heure de Nouméa.
Évidemment, ce midi, dans le MAC des sports, on aura tous les résultats sportifs du week-end, mais nous aurons aussi un invité, Christophe Dabin, le président du CTOS, l'occasion de faire le point avec lui sur l'impact, évidemment, de cette année 2024 sur le mouvement sportif, mais aussi dresser les perspectives pour l'année 2025. Ce sera à suivre juste après Infomag, le journal de la mi-journée.
La météo avec la 7. 6 magasins sur l'ensemble du territoire pour vous accompagner dans tous vos projets. La 7, construire, rénover, aménager.
Les couleurs du ciel, c'est avec vous Thierry.
Oui Nicolas, des nuages et quelques gouttes stagnant sur la façade est et la pointe sud ce matin. Ailleurs, le soleil l'emportera largement. Le vent, lui, orienté au sud-est, sera souvent proche des 10 nœuds. Sur l'ouest, il sera variable faiblement en début de matinée, puis les brises de mer s'installeront entre 5 et 10 nœuds. Cet après-midi, les nuages formés sur la chaîne déborderont sur la côte est, la pointe nord et même jusqu'au Loyauté. Ils donneront quelques averses sur le nord-est principalement. Ailleurs, le temps restera très ensoleillé. Le vent, lui, sera orienté pour cet après-midi à l'est-sud-est à sud-est, entre 5 et 10 nœuds. Sur le nord-est et la pointe nord, ailleurs, il se renforcera autour des 10 à 15 nœuds. Ça sera orienté sud-ouest cette fois, voire plus de 15 nœuds sur l'ouest et le sud. Les températures sont stationnaires ou en légère baisse. Elles resteront proches des valeurs de saison, entre 27 et 31 degrés.
Merci beaucoup Thierry. Merci à tous d'avoir suivi ce journal.